Bonsoir à tous, merci d'être venus. Avant cette rencontre, je suis juste là pour fixer quelques règles du jeu. Ça va être assez intime, donc ça va aller bien. Juste, vous avez bien pensé à éteindre vos portables. Le but du jeu, c'est qu'un entretien, il y aura pas mal de choses à voir. Laurence, qui va interviewer Marion Montaigne. Une partie entretien, une partie questions-réponses. Ou Laurence, même si tu veux faire un petit peu autrement. Le but du jeu, c'est que bon, là, on est le dernier, donc on peut durer un petit peu si on veut. On est moins pressé par le temps, donc profitez-en, prenez votre temps, et puis bonne rencontre. Laurence, à toi.
Merci à vous d'être là ce soir, donc avec Marion Montaigne. Marion Montaigne, moi, j'aurais bien aimé l'avoir eue comme institutrice quand j'étais petite. Ça n'a pas été le cas. Problème d'âge, probablement, je ne sais pas.
On doit avoir le même âge.
Mais avec Marion, on apprend plein de choses sur science, façon ludique, drôle. C'est assez formidable. Donc, elle a publié 2 tomes de Tumora moins bête, qui est une compilation de notes de son blog, dont le 2e tome a eu un prix, le prix du public à Angoulême cette année. Et elle prépare un album qui va sortir chez Dargaud prochainement, au mois d'octobre.
Enfin, 31 octobre.
31 octobre, précisément, qui s'appelle Riche,
Pourquoi pas toi,
dont on parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Alors Marion, d'abord, moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre blog, dont on va voir quelques notes défiler sur l'écran, qui s'appelle « Tu mourras moins bête ». Donc, pourquoi ce titre de blog ?
Je sais pas. Je l'ai créé.
Ça commence bien.
Je l'ai créé en 2008, un été où j'avais bien envie d'utiliser le support de blog, mais pas pour raconter ma vie. Donc j'ai créé une sorte d'alter ego, mais pour pas qu'on me reconnaisse, j'ai mis des moustaches. Maintenant, j'ai du mal à justifier que ce soit une femme qui ait des moustaches.
Qui s'appelle Professeur Moustache, non ?
Qui est devenue Professeur Moustache à force, parce que les gens, ils m'écrivaient en m'envoyant des cartes postales et en m'appelant Professeur Moustache. Et donc, en fait, comme moi, j'aime bien la science, j'aurais peut-être bien fait de la... Oula, doucement.
Il m'en reviendra, je cherche le professeur.
Ouais, il est là.
Voilà.
Avec un cousin. Donc, en fait, c'est un peu moi, mais comme je voulais tellement pas raconter ma vie, j'ai mis un postiche. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir des problèmes d'identité sexuelle parce que à l'école normale supérieure, il y a des sociologues qui m'ont demandé, qui m'ont travaillé. Ils étaient très intéressés sur le genre. Ils m'ont dit, est-ce que ça... Vous avez mis un homme parce que ça veut dire que pour être drôle, il faut être un homme.
Vraiment ? On vous a vraiment demandé ça ?
Ah oui, oui. Est-ce que ça veut dire que pour faire de la science, réussir dans ses études, il faut être un homme ? Et je suis sortie au bout de 3 heures en sachant plus du tout qui j'étais. Et j'ai pas su répondre. Je sais pas. J'aurais pu lui mettre une perruque. Mais ça, je trouve ça marrant que ce soit à la fois un homme, une femme ou c'est peut-être un homme qui a des seins. On ne sait pas pourquoi une femme qui a des moustaches. Et tant mieux, parce qu'à cette époque où il y a du girly, du non-girly, on s'en fout finalement. Je suis une fille, mais je ne fais pas de girly, donc je fais même du trash, donc c'est bien.
Du trash girly par moment même, mais on y viendra un petit peu plus tard. On va préserver le mystère du professeur Moustache. Alors vous disiez il y a quelques minutes ne pas avoir eu envie de raconter votre vie sur un blog. Pourquoi ? Parce que beaucoup l'ont fait, ça a quand même été une tendance qui s'est un petit peu... ralenti ?
Parce que j'ai la même vie que tout le monde. J'ai un chat, je mange des cornflakes. Enfin, au bout d'un moment, non, mais c'est pas. C'est un peu auto-centré. Et puis, j'ai pas envie que les gens sachent ma vie. Mais d'un autre côté, je la raconte un peu, puisque par exemple, là, c'est quand je suis allée voir des gens du CNES. Alors, je me suis retrouvée à côté d'un astronaute. Claire Voix, qui a voyagé dans l'espace. Donc, quand je me retrouve avec des gens qui ont bac plus 24, c'est sûr que je suis un peu intimidée. Ah oui, à ce repas-là, il nous a demandé quelle partie du corps d'un animal on aimerait se faire greffer. Et lui, il est tellement sérieux, c'est tellement un scientifique. Lui, il était sérieux, lui, il voulait se faire greffer des ailes, mais tout le monde à la table avait envie de dire une horreur, enfin... Donc, non, mais c'est très, voilà. Je raconte un peu, c'est un peu moi quand je vais rencontrer des scientifiques, etc., mais c'est pas vraiment moi, donc je brouille des pistes. Je peux lui faire dire n'importe quoi, je peux la rendre odieuse. tout est possible.
Alors les scientifiques et leur matériau, c'est votre matériau à vous de prédilection. Pourquoi ? Pourquoi la science ?
Bah, j'aime bien. Depuis la sixième, je trouve ça chouette, la classe de biologie. C'est peut-être parce que j'avais cours de religion avant et que j'étais un peu perdue. Alors après, c'est rassurant d'avoir des vivariums, des trucs qu'on peut toucher. Mais j'aime bien ces trucs-là. J'ai une prédilection pour le médical. Moi, j'aime bien regarder le journal de la santé, même s'il y a des opérations. J'aime bien les opérations.
Et à quel moment vous vous êtes dit « j'aime suffisamment ça pour dessiner ces histoires-là, raconter »
Mais en fait, je regardais pas mal de documentaires, je lisais des magazines scientifiques et je notais des trucs, mais je ne savais pas comment en faire une histoire parce que c'était que des notions scientifiques. Je n'allais pas faire un livre sur... Il y a des histoires comme ça où on sent que le scénariste, il a voulu... Il se répand sur des descriptions, des détails de... En fait, j'ai tout rassemblé sur un blog. Un jour, j'ai fait, allez hop, je réunis tout et je mets dessus et puis on verra ce que ça va faire. Et les premiers, il y a eu un rodage. Les premiers, je ne peux plus les voir, ils sont trop moches. Maintenant, ça a pris forme et c'est mieux.
C'était quoi votre première note de blog ?
C'était quand ?
C'était quoi le sujet ? Vous vous en souvenez ?
Non.
Non, il n'y a pas la réponse au tableau. Désolée.
Alors ça devait être une vieille note sur. Alors c'était soit sur la douleur chez les insectes, parce que j'avais lu quelque part que quand on coupait les pattes à un insecte, il continuait à marcher dessus, ce qui prouvait bien qu'il avait pas mal. Et donc, tandis que les mammifères, si vous leur coupez une jambe, ils n'essayent pas de remarcher dessus. Et je trouvais ça intéressant, je me suis dit, il faut que le monde le sache. Et donc, j'en ai fait une BD. Voilà, avec une coccinelle qui s'appelait Yannick. Et voilà. Mais c'est. Ouais, où j'ai dû faire un truc encore sur l'espace au départ. Mais c'était très court. Ça pouvait être un article que j'avais lu quelque part et j'en faisais une note et j'en faisais deux fois par semaine. Maintenant, j'en fais moins. Mmh. J'en fais des moins.
Passer par l'humour, c'était une évidence dès le début. Ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être des notes de blog sérieuses où on raconte de façon didactique.
Je sais pas faire. Non, il faut que je mette de l'humour, sinon ça fait mieux passer la pilule, parce que expliquer le boson de Higgs sans humour, je vois pas comment. J'ai essayé, c'est peine perdue.
Ça marche mieux comme ça ?
Ah oui, c'est David Pujada, oui. Oui, plus ou moins.
Alors là, par exemple, vous pouvez un peu nous raconter comment ça vous vient ? Qu'est-ce qui vous donne envie d'utiliser ces références-là ?
J'avais beaucoup de courriers qui disaient « Vous n'avez pas expliqué le boson de Higgs ?» Et avant qu'on le trouve, je disais « Bon, je m'en fous. » Et puis on l'a vraiment trouvé. Et là, je me suis dit « Mince, il va falloir que je me documente. » Et il y a beaucoup de gens qui ont essayé de l'expliquer. Et quand j'ai enfin à peu près compris, je me suis dit « Je vais essayer. » Mais je crois que personne n'a compris, même après ma note. Moi-même, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Et il faut juste comprendre que c'est en rapport avec la masse. C'est compliqué. Mais si on ne met pas de l'humour, je ne vois pas comment on s'en sort.
L'humour, ça permet de décomplexer aussi les gens, de leur donner l'impression qu'eux aussi peuvent accéder à ce savoir-là.
Moi, je pense aussi que le lecteur est un gros flemmard. Je suis une grosse lectrice flemmarde. Enfin, une lectrice flemmarde. Et qu'on perd vite. Il faut, c'est à l'auteur d'aller entretenir la curiosité. Et je vois que l'humour pour faire ça, le gag pour... pour entretenir l'envie de continuer à lire. Sinon, parce que ça entretient un rythme, et j'essaye même de faire des phrases pas trop longues, parce que j'ai même peur que, comme j'aimais pas lire quand j'étais petite, que même le lecteur ait envie de partir. Donc je fais même court, je peux même diviser des phrases avec des dessins pour que ce soit pas trop compliqué.
Pour préparer vos notes, vous vous documentez beaucoup, je crois que vous allez en bibliothèque, vous rencontrez même carrément des savants, des scientifiques.
Oui, j'aime bien aller à la bibliothèque. En plus, on habitait avant près de la médiathèque de la Villette, donc là, il y avait de quoi faire. Et ouais, ça prend bien un mois maintenant, parce que maintenant, il faut non seulement que je me documente, mais que je trouve un bon thème d'article. Donc des fois, c'est même la recherche du thème qui est long. Et une fois que j'ai trouvé, je cherche. Et je fais quand même des notes beaucoup plus longues maintenant, qui sont assez longues. Ouais, ça, c'était dur, ça, quand même.
Et qu'est-ce que c'est un bon thème d'article ?
Alors, un bon thème d'article, c'en est un qui est visuel, qui a des réponses. Moi, j'ai eu des questions qu'on m'a envoyées par mail, je n'ai pas la réponse. Pourquoi les crottes des yeux des chats sont noires et nous jaunes ? Il faut que je trouve un vétérinaire. Je sais pas. Et puis, il faut que ce soit long, parce que si la réponse est parce que, bah, c'est fini. Donc, faut que je recoupe. Maintenant, je recoupe plusieurs articles. Là, j'ai dû lire au moins 5 articles, 6, 7, 8, de différents niveaux de difficulté. Mais je pense que. Mais pour celui que j'ai fait sur le cheval, par exemple, ouais, c'est au moins ouais, une bonne douzaine d'articles et je les recoupe, en fait.
Ouais. C'est une entreprise de vulgarisation, clairement. Vous cherchez vraiment à simplifier sans perdre.
Ben, je ne sais pas si je veux cultiver la plèbe, je ne pense pas, mais c'est juste que c'est un support où il y a tout. Quoi. Les scientifiques, ils n'arrêtent jamais, ils font le pire qu'on puisse imaginer. On dit que je suis gore, mais c'est eux qui sont gore, et c'est incroyable. J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai tout lu. Ils sont fous. Ils sont fous.
Ça, bah, donnez-nous des exemples. On se pose des questions.
Celui sur les toilettes, par exemple, il y a des...
Qu'on verra plus longuement dans quelques minutes.
Ah, bah alors, je le garde pour plus tard. Par exemple, vous avez des chercheurs qui ont voulu se demander si, savoir si on peut digérer une musaraigne. Donc, il y a un chercheur, il a été choisi comme cobaye. On lui a fait... on lui a découpé une musaraigne, qui est une petite souris. Et on lui a fait d'abord manger du maïs pour que ça fasse un marqueur quand ça sortira. Mais c'est pas moi qui suis crade, c'est la science qui l'est. Et il a dû manger les bouts de musaraigne sans trop mâcher. Et à la fin, il a remangé du maïs pour le marqueur. Et à la fin, comme ça, il pouvait voir le résultat. Et c'est pas moi, c'est eux.
Et, ok,
c'est pour vous. Ça qu'à la fin, je mets les notes pour dire, regardez, c'est pas de ma faute, c'est eux les premiers. Moi, je fais juste ce que raconter. Mais il y a tellement de choses qui touchent tous les domaines... de tous les jours, et si ça peut aussi contrebalancer les croyances qu'on a, c'est parce que la vie, c'est pas comme dans une pub de dentifrice, quoi. Il y a des côtés un peu gore qu'on nous cache. Enfin, faut pas toujours regarder ce côté-là, mais je préfère voir la réalité qui est pas rose, que j'aime pas qu'on me vende des saucisses, comme on dit. J'aime pas qu'on me trompe, donc j'aime bien mettre en avant. Bon, au moins dédramatiser ce qui est glauque, mais ce qui est à savoir. Quoi.
Les notes que vous évoquez, ce sont des sources assez précises, hein, puisqu'à chaque fois, vous donnez les liens, les références des articles, des livres que vous avez consultés. Ça vous a amené à avoir des liens un petit peu plus étroits avec la communauté scientifique. Vous allez les voir régulièrement. Vous leur soumettez vos notes. Comment ça se passe ?
Bah, de fil en aiguille, le premier qui m'a proposé d'aller dans son labo, c'était un physicien. En dédicace, qui m'a proposé de voir son microscope. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en regardant ce que je faisais, les chercheurs m'ont appelé. Alors, ils savent à quelle sauce ils vont être mangés un peu. Donc, ce sont des lecteurs. Donc, souvent, ils sont jeunes. C'est des gens qui préparent leur thèse. Et il y a de tout aussi, pareil. Je suis allée voir des virologues à l'Institut Pasteur. J'ai vu des gens CNES, j'ai vu plein de choses. J'ai tiré à l'arme à feu, pour vous, public.
Pourquoi
J'ai tiré au fusil à pompe. Bah, parce que à force, sur Facebook, il y a des gens qui me proposent d'aller voir leur labo. Et un soir, c'était un policier qui m'a dit « J'ai beaucoup aimé vos notes sur la balistique et je suis passionné d'armes à feu. » Si vous voulez, je vous fais tirer arme à feu. Et moi, comme j'aime bien les propositions un peu, j'ai fait « Ah ouais, super !» Et après, je me souviens, je me suis couchée en me disant « Mais qu'est-ce que t'es bête ? Si ça se trouve, c'est un psychopathe. » Alors, j'y suis allée accompagner. Et c'était pas un psychopathe. Quoique. Non, c'était un vrai policier et qui avait plein d'armes. Des fusils à pompe, des trucs... des fusils d'assaut, alors avec des silencieux qui servent à rien, ça fait beaucoup de bruit, et donc c'était une expérience complètement n'importe quoi, mais c'était génial, mais flippant, mais bien. Et donc j'aime bien faire des trucs un peu bizarres, comme Le plus fou, quand même, c'était le vol en apesanteur avec le CNES. Ça, c'était super cool.
C'était aussi une proposition de leur part ?
Ça, c'est... je connaissais depuis quelques années l'attachée de presse du CNES qui désespère que les gens... ils s'en fichent maintenant qu'on envoie des bonhommes dans l'espace. Il y en a un, il a failli se noyer récemment, tout le monde s'en fout. Il a eu une fuite d'eau dans son casque, il n'arrivait pas à retirer l'eau qui collait à son visage, il a été sauvé par... Enfin, il ne voyait plus rien, il a réussi à remonter jusqu'au sas et ses amis lui ont ouvert le casque et vite épongé. Il aurait pu mourir noyé dans l'espace et tout le monde s'en fout. Et bref, alors que si on n'envoie pas des satellites, etc., on n'a plus de... Il y a plein de choses qu'on n'a plus, on n'a plus le GPS, etc. Donc... Elle m'avait dit, si tu veux faire un article, moi, je te fais voir des gens, etc. Elle m'a proposé de voler en vol parabolique. Alors, comme pour l'arme à feu, j'ai fait, ouais, super. C'était une super expérience.
Est-ce que vous avez le sentiment que le milieu scientifique se sent mal aimé, mal compris du grand public ?
Faut dire aussi, ils ont des métiers. Enfin, c'est tellement spécialisé que oui, je pense qu'il y en a, ils désespèrent que ce soit pas considéré comme un truc très sexy. Mais j'en ai rencontré qui ne veulent pas que le grand public comprenne. Ils disent c'est peine perdue, c'est pas la peine de rendre ça sexy. Ils seront déçus. Et il y en a qui disent non, il faut faire rêver les jeunes. C'est en regardant des films que j'ai voulu faire de la science, mais. Moi, je trouve qu'il y a des points communs avec le métier des auteurs de BD parce qu'ils travaillent un peu tout seuls, ils n'ont pas beaucoup d'argent par l'État, ils sont très intelligents.
Très beaux, beaucoup de charme, quoi d'autre ?
Ils restent. Ils passent des mémoires, ils ne savent pas si ça va passer, après, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc c'est jamais très sûr. Donc il y a des similitudes, mais ça reste là. Mais je pense que oui, ils souffrent un peu de ce côté. Mais de manière générale, aujourd'hui, on se dit qu'il y a une confusion entre... on regarde par exemple des émissions de télé pour pas trop travailler cérébralement, et il y a un peu l'idée que quand on se cultive, on se fait mal à la tête, en fait, on va en baver, c'est rabat-joie, c'est prise de tête. Alors qu'on peut apprendre, quand on rencontre vraiment un chercheur passionné, c'est super. C'est juste qu'il n'a pas la parole ou qu'il sait pas, ou qu'il y en a qui ne savent pas vulgariser, justement. Il y en a, c'est laborieux.
Ça vous est déjà arrivé d'être bloqué, de
ah
pas
oui,
pouvoir...
j'ai eu un mal de crâne avec un physicien. Je ne comprenais rien à ce qu'il me racontait. Il a vu ma tête et il dit « vous ne comprenez rien ». Je fais « non, je me concentre ». Il fait « ça m'inquiète parce que demain, c'est la fête de la science et j'ai des CM2 ». Je lui dis ah oui, bah oui, il va falloir faire un effort.
Je vous propose un petit exercice. Vous allez travailler toute seule maintenant, Marion Montaigne. Je vais passer une note de blog assez récente que je vais vous demander de commenter. Alors en pensant aux gens qui vont nous écouter sans la voir, donc en décrivant un petit peu ce qu'on va voir ici ou là, ça va venir. Hein. Voilà.
C'est la dernière page.
Je dis ça. Hop. Ah oui, merci. Voilà, voilà. On monte le curseur. On va y arriver. Voilà. On y est presque.
Alors, j'avais.
Je vais mettre ça en grand, comme ça on va bien voir.
Ah oui, alors j'avais lu un article.
Voilà.
Sur est-ce que la lunette des toilettes est vraiment si sale ? Est-ce qu'il faut mettre du papier toilette ? Parce que les chercheurs l'ont étudié. Ils l'ont même étudié chez les enfants. En Angleterre, parce qu'il y en avait certains qui ne voulaient pas y aller. Ils ont fait plein d'études. Et donc là, je me suis dit, je vais encore faire un article un peu scato. Donc j'ai amorti la chose en présentant le professeur Mustache qui va se confesser et qui dit à mon père, excusez-moi, parce que... voilà, je vais faire une note un peu scato. Et puis bon, il a l'aval du prêtre. Ça, comme ça, ça me rassure, j'amorce, c'est mon petit côté judéo-chrétien. Alors voilà, est-ce qu'il est utile de mettre du papier toilette sur les lunettes des WC avant de se poser les fesses dessus, ce que beaucoup de femmes font, à la hauteur de, je ne sais plus, 60-78%, mais ça, c'est les études américaines, je ne sais pas en France, mais c'est beaucoup. Et n'empêche, ça ne sert à rien, parce que des bactériologues se sont beaucoup penchés dessus. Alors voilà... Alors, je refais un historique quand même du problème. C'est que quand même, c'est quand même un problème de salubrité publique, c'est-à-dire qu'il y a toujours du monde chez les filles parce que les filles ont plus besoin d'aller aux toilettes que les garçons, étant donné que j'ai l'impression de faire la météo, étant donné qu'il y a beaucoup de bazar là, alors que là, c'est rangé très bien chez les hommes, femmes. Donc voilà ce que fait la femme.
Elle installe du papier toilette soigneusement.
Ah non, par 12% des femmes. Étude du docteur Moore. Alors, c'est autre chose. Donc voilà, elle se fait un petit truc. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on met un petit nid de papier toilette? Parce que les gens ont peur des bactéries qui sont sur les toilettes. Ils ont peur qu'ils vont d'attraper des maladies très graves. Et ça, les bactériologues l'ont étudié. Ils ont étudié les bactéries qui étaient sur la lunette des toilettes et dans tous les appartements. Et ils ont découvert que ce n'était pas les toilettes les plus sales. Alors là, c'est ce que s'imaginent les gens, qu'une tripotée de bactéries attendent de vous bouffer.
Des petits bonshommes agressifs de toutes les couleurs, toutes dans dehors.
Ne le niez pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens, c'est leur quotidien, ils pensent à ça. Mais en fait, si vous n'avez pas de blessure, normalement, il n'y a pas de raison. Alors là, les images défilent, c'est très drôle. Alors, 85% des personnes ne vont pas mettre de papier toilette, mais les scientifiques l'ont calculé, ils vont faire ce qu'ils appellent le vol stationnaire, c'est-à-dire pas poser. Et c'est très sérieux, il y a des enfants, ils font ça, et c'est pas bon pour la santé.
C'est le vol stationnaire, la mixtion en vol stationnaire?
Je trouve que le dessin est clair. vous penchez, mais vous ne touchez pas. Faites pas l'île. Ah, pourquoi c'est pas bon? C'est très frustrant pour les gens qui ne voient pas.
Voilà.
Bon, alors déjà, première raison. Il y a un bactériologue qui s'appelle Gerba, qui a un super nom, il s'appelle Gerba, je crois qu'il est indien, d'origine indienne. Il s'est rendu compte que d'abord, la lunette est plus propre que l'évier de la cuisine. Et que si des extraterrestres devaient analyser nos objets, ils concluraient que les toilettes sont probablement faites pour faire la vaisselle et un sac à main qui est extrêmement sale est plutôt fait pour faire ses besoins. Parce que le pire, c'est vraiment le sac à main. Il y a de la salmonelle, des germes fécaux, et surtout chez les femmes, parce qu'elles partagent souvent les toilettes avec leurs enfants. Et donc c'est pire, et elle change. Il y a des staphylocoques et de la bactérie de la conjonctivite, le pseudonome, Moon. Donc, à moins de faire ça... Oui, aussi, le sac à main se prend aussi le... ça va être inécoutable.
C'est gore. On va passer les détails.
Voilà, donc c'est très marrant qu'on vit dans un monde très aseptisé, alors qu'on pense... On passe notre temps à se toucher le visage, environ 5 fois par minute. Alors, le visage qu'a touché le sac à main.
On imagine.
Même si on s'est lavé les mains. Donc c'est extrêmement hypocrite. Donc les scientifiques ont fait des recherches, mais vraiment ils ont calculé, si vous faites un vol stationnaire, que vous êtes dans une mauvaise position pour la contraction des abdominaux. Et ils ont donc calculé, mais j'ai le PDF de la thèse du docteur Moore. Ils ont calculé que si vous êtes dans cette position, votre vessie ne se vide pas totalement. Résultat, vous êtes puni par là où vous avez péché, puisque si vous ne videz pas complètement votre vessie, vous pouvez avoir des cystites. Paradoxe, en voulant fuir les bactéries des autres, vous vous faites infester par vos propres bactéries. Et je pense que le monde devait le savoir. Non, et donc ils ont fait cette étude-là parce que n'empêche, il y avait plein d'enfants en Angleterre qui étaient malades d'avoir peur d'aller aux toilettes. Ils se retiennent, ils veulent pas y aller ou ils font des trucs comme ça. Donc c'est un truc hyper sérieux qui est dans les sources. Donc, et en fait, il y a une théorie comme quoi le King serait mort en fait de constipation. Peut-être parce que ne voulant pas salir ses blue suede shoes, il a adopté le vol stationnaire. Et si on l'avait dit plus tôt, on aurait pu épargner toutes les femmes du monde entier.
Voilà. Et bien, donc oui, voilà. ce genre de sujet, c'est important.
Ça cartonne parce que n'empêche, je le savais, j'avais un peu l'intuition que ça marcherait bien comme note parce que c'est le genre de choses du quotidien qui s'échangent après sur Facebook. Tout le monde fait tiens, je te l'envoie, ça, ça te concerne. Ça a très bien marché. Ça a dû faire...
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, très bien marché? Combien de
ça
personnes
ça a dû faire 35 000 visites ou je sais pas quoi. Donc, c'est des trucs. Le quotidien, la peur en avion, les bactéries, les animaux, ça marche très bien. Et le sexe aussi. Si je veux faire une note pour rappeler un peu les gens, je choisis là-dessus. Ouais. Mais pas le boson de Higgs. Non.
Ça n'a pas marché. Un échec.
Je crois que j'ai dû perdre des gens même. J'ai dû les perdre en route.
Alors comment est-ce que vous travaillez vos notes? Est-ce que vous faites un storyboard avant? Est-ce que vous réfléchissez à l'enchaînement des petites séquences très soigneusement? Comment ça se passe?
Alors en lisant, j'ai des gags qui me viennent dans la tête et s'il y en a au bout d'un moment, je les cumule. J'y pense sous la douche, en cuisinant, en marchant, et jusqu'à ce que j'ai envie de le dessiner. Donc avant, j'y allais direct et voilà. Maintenant, j'essaye de faire un peu un brouillon avec des patates. Et après, j'ancre directement, pas sur le crayon à papier, j'ancre à côté. Et je colorise que les dessins qui sont bien, parce que je veux que ça reste vif. Donc après, il y a un gros travail de mise en puzzle. Mais c'est vrai que c'est surtout la documentation. Si des fois, je peux lire beaucoup de textes et il n'y a rien qui vient, je vois pas. Donc là, j'ai dû recouper. J'ai un super site américain qui, avec plein de questions comme ça, et de fil en aiguille, j'ai les noms des chercheurs, je vais les chercher, ce qu'ils ont écrit comme livre, j'arrive à les retrouver. Voilà, pour pas dire des bêtises. Et puis voilà, je recoupe.
La vivacité du trait, ça c'est très, très important, justement. Il est assez lâché, il y a une énergie. Comment est-ce que vous le façonnez, ce trait?
Oui, c'est un trait. Je ne suis pas là pour faire du beau, j'ai un peu abandonné l'idée. Mais ce que je veux, c'est que ce soit vif, que ce soit vraiment péchu, et qu'on comprenne bien l'action, et que les personnages aient l'air complètement fous. Quoi. Mais quitte à faire. Voilà. Mais là, presque, il y a un truc qui cloche et qui parle beaucoup trop par rapport à l'action. Le zip, ça, c'est rapide. Et, enfin, voilà. Quand il y a une action rapide, il faut qu'il y ait peu de texte. Parce que je n'aime pas quand Black et Mortimer sautent par-dessus une flaque tout en racontant leur vie avec des bulles grosses comme ça. Ça, où ils donnent un coup de poing en racontant leur vie. Je suis le méchant. Tiens, ça ne fonctionne pas. C'est un problème de rythme. Donc je pense qu'il... Comme le blog, on n'est pas limité en nombre de cases, il faut y aller.
Il y a des auteurs, il y a des styles que vous aimez particulièrement, qui ont pu vous inspirer, vous influencer? Personne, vous êtes fait toute
seule. Non, dans le passé. Je pense que c'est dans le passé. Je pense qu'il y a un peu de Dr. Slump, il y a pour un peu le côté... Il doit y avoir du Reiser et aussi... Il doit y avoir un mélange de plein de trucs. Du... Agrippine, c'est...
Bratécher.
Il doit y avoir un mélange de tout ça, mais c'est surtout qu'il faut que je dessine aussi vite que je raconte, en fait. On s'en fout un peu que le confessionnal ressemble à une brioche. Enfin, tant que c'est écrit confessionnal, on a compris. C'est un peu le... Mais ça correspond aussi au rythme du travail. C'est qu'au début, je le faisais en parallèle. Je le faisais gratuitement, toujours gratuitement, en parallèle de travail. Donc, je pouvais pas non plus passer un temps fou dessus. Donc, c'est fait... C'est fait brut de pomme et j'ai gardé ça. Même si j'ai le temps, je le ferai vite.
Donc voilà. Très bien. On va parler dans des projets. Enfin, c'est même plus un projet, c'est une réalisation maintenant dans laquelle vous êtes impliqué, qui s'appelle Professeur Cyclope. Alors, pendant que je vais chercher les images pour les montrer, je vous demandais de nous raconter un peu ce que c'est Cyclope.
Alors, il y a plusieurs auteurs de bande dessinée qui ont décidé de créer des magazines numériques. Il y en a trois. Il y a Professeur Cyclope, la revue dessinée, et il y en a un autre qui s'appelle Mauvais Esprit.
Pardon.
Et il y a même un quatrième qui s'appelle Argue. Donc là, il y a des auteurs qui se lancent dans la création de revues numériques en BD. Et donc, pour le Cyclope, j'ai créé l'histoire d'un studio d'animation. Il y a trois... Parce que j'ai travaillé un peu dans l'animation. Je connais pas mal de gens qui y travaillent. Donc, ce sont un auteur, un scénariste et un animateur qui doivent créer un dessin animé absolument stupide parce que les chaînes veulent des choses très consensuelles qui ne choquent pas les enfants. Donc j'ai fait ce qu'il y a de plus débile, un clown. Et c'est par système de diapositives, donc ça permet de faire un peu une animation. Et donc ils sont obligés de faire des gags vraiment nuls. Et ce que j'aime bien, c'est le contraste entre eux qui ont un patron violent, qui sont dans une violence du boulot, qui doivent faire vraiment des choses très cucu pour les enfants, à la limite du degré pâquerette, etc. Et j'ai choisi cet épisode-là parce qu'ils essayent de faire un concours à présenter au festival d'Annecy, mais ils vont tout faire de travers parce que c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut rien faire, on peut pas faire des enfants qui font du foot, ils risquent de se blesser, ils prennent plus d'échelles parce que c'est des adultes qui montent sur les échelles. Ça, j'ai vu ça dans le petit Nicolas. Ils mettent un ballon dans un arbre et ils vont chercher une échelle. Là, je me suis dit, bon Dieu, c'est dangereux. Et en effet, ils vont chercher un adulte pour monter dans l'échelle parce que ça pourrait donner des idées aux enfants. Et ça va très très loin. Je trouve ça absurde. Il faut qu'ils aient des casques, dans le petit Nicolas, le film, il faut qu'on voit qu'il y a un plan où il attache sa ceinture de sécurité. On ne peut plus dessiner des enfants qui font la roue parce qu'ils peuvent tomber sur la tête, ni qui mangent des cacahuètes parce que certains sont allergiques. Donc c'est que des trucs comme ça. Et je me moque un peu de ça parce que, à part ça, ceux qui font ça vivent dans une violence professionnelle et ils se retrouvent à devoir faire à dessiner un monde qui n'existe pas, en fait. Donc, Donc là, leur patron est un peu sadique. Il a essayé de faire une thérapie, comme le groupe Metallica qui a appelé un psychologue pour apprendre à gérer son incompétence et la compétence des autres.
Alors, Professeur Cyclope, comme la revue dessinée dont on va parler juste après, est un projet lancé par des auteurs. Mmh. Ça, c'est une particularité quand même notable. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur ce format-là ?
Ils ont décidé de se lancer parce qu'ils étaient un peu frustrés, apparemment, par les éditeurs qui traînaient un peu la patte. Donc, ils se sont dit, ouais, on va prendre les devants. Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup du numérique. J'assistais à des discussions et on parlait un peu dans le vide. On n'arrêtait pas de faire des suppositions sur l'économie en numérique. Et on ne savait pas. Donc, on a décidé... Les auteurs ont décidé de créer quelque chose et maintenant on a des supports, on a des retours, on peut créer. Ah oui, là ils sont à Annecy, le festival d'Annecy, avec le film de Joanne Starr. Et donc moi, ce projet, je l'avais depuis sous le coude depuis un moment et puis je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le ressortir. Et puis c'est vrai que travailler avec des auteurs qui sont aussi ses amis, normalement ça se passe assez bien parce qu'ils savent ce que c'est que travailler, que les contraintes techniques, etc. Ah oui, voilà, c'est le genre de choses
qu'il faut... Voilà, là on voit les conditions des gags qui doivent faire rire un mineur de bac plus zéro, qui ne doit pas contenir de sang d'animaux blessés, de cyclistes sans casque.
Mais ça existe, hein,
d'handicapés malheureux, de noirs en situation d'échec, de fumée sans feu, de moqueries sur les patineurs artistiques. Pourquoi les patineurs artistiques, Marion Montaigne ?
Moi, j'attends toujours qu'ils tombent, mais bon. Je sais pas, c'est gentil, un patineur artistique.
Pas d'armes à feu.
Mais par exemple, j'ai pas mis des fruits et légumes. J'ai rencontré le cas de... c'est Disney qui avait créé des fruits et des légumes qui étaient un peu sympas. Mais comme c'était manger et bouger, il fallait un moment qu'on les coupe. Et là, c'était le drame. Comment couper un personnage sympa ? Ils se sont pris la tête pendant... Les enfants allaient être traumatisés. Mais moi, ça m'aurait pas posé de problème. Je sais plus comment ils s'en sont sortis.
Ouais. Alors, professeur Cyclope a 6 numéros, je crois, au compteur, aujourd'hui.
Ça existe, c'est un mensuel qui existe depuis le mois de mars, donc oui.
Vous savez un peu quel est le bilan de l'aventure aujourd'hui ?
Pas beaucoup, parce que je pense qu'ils sont contents. Mais c'est vrai que je n'ai pas de retour, parce qu'ils sont pas mal à Nantes et qu'ils sont à flux tendu. Donc je vais les rencontrer au Festiblog. Bah, normalement, ça, c'est un gif, ça clignote. On va en discuter, mais c'est vrai qu'ils sont tellement pris que je pense que... mais bon, ils ont tout fait de traviole. Oh là là, ça rame.
Bon, je pense que...
Bon, donc, il y a un clown noir avec un animal qui souffre. Il y a du sang, des chips, de l'alcool. Est-ce qu'il faut pas montrer d'alcool dans les dessins animés. Donc, voilà. Puis, si au passage, on peut se moquer des collègues, c'est
pas mal. Une collègue.
Un collègue.
Un collègue.
Le chat du...
Oui, le chat du rabot, donc, que vous citez dans Zapoto pour professeur Cyclope. Donc, on a évoqué tout à l'heure la revue dessinée, qui est un autre projet, cette fois-ci un projet papier, principalement, même s'il y a une version pour iPad, qui là est une revue d'informations dessinées, donc des reportages.
Des reportages. Eux, c'est vraiment du reportage en BD, un peu comme la revue 21, mais plus centré sur, pas des reportages au bout du monde, un peu ce qui se passe en bas de chez soi. Et ils m'ont demandé assez tôt si je voulais faire quelque chose, et ça tombait bien parce que j'avais bien envie de développer la vie dans un zoo, notamment à la ménagerie près du dans le jardin des plantes. Et j'ai donc ça a été un peu long. Là, je dispose de 28 pages, ce qui est beaucoup plus long que sur le blog. Donc je suis j'ai réussi à avoir le contact grâce à un éthologue, etc. Donc j'ai rencontré Marie-Claude Bomsel qui passe beaucoup à la télé, qui conseille les gens, les directeurs, et j'ai suivi la vétérinaire et un des plus vieux soigneurs qui est juste génial. Et c'était super intéressant. Donc dans la partie 1, j'ai plus parlé de l'historique de la ménagerie et de la mission des zoos, parce que c'est intéressant de savoir le parcours que ce zoo a fait, étant donné qu'il est le deuxième plus vieux zoo du monde. Il a 200 ans, donc c'est important parce qu'il a évolué avec le public. Et le jour où j'y étais, il y a une nandou qui s'est cassé un bec. Alors le problème, c'est qu'on sait réparer des becs du haut, mais elle s'était pété le bas et on était bien embêtés. Donc là, j'explique les différentes possibilités pour réparer un bec. Ça, ils l'ont vraiment fait sur un perroquet.
Alors ça, c'est fixer des broches, hein.
Ils fixent des broches dans le crâne en haut et ensuite, ils lui sculptent un bec, enfin, ils lui moulent un bec et apparemment, ça va. Mais c'est plus compliqué que ça, un bec de perroquet, parce qu'ils sentent avec comme des doigts. Ils doivent avoir des nerfs dans le bec. Donc bon, bah, il a une jambe de bois dans le bec, en fait. Enfin, voilà. Mais oui, ça... là, le problème, c'était que c'était la partie du bas avec la langue. C'était un imprévu de la journée, donc j'ai suivi l'opération, et c'était cool. Parce que moi, j'aime bien les opérations. Voilà, et c'était cassé le bec du bas, et ils étaient bien embêtés. Et il faut vite régler ça avant que les enfants arrivent, sinon ils peuvent avoir un peu peur. Donc oui, la veto, ce qui est génial, c'est que c'est de l'improvisation. Donc elle ne sait pas comment on va faire. Elle se donne 2 heures pour trouver une solution. Et après, c'est MacGyver. Donc le temps qu'elle cherche, je suis allée voir ce qui se passait à la nurserie. Et il y a... Ouais, mais je ne vais pas tout vous raconter. Non, ce qui est génial, c'est qu'à la nurserie, c'est qu'il y a le bébé vautour, par exemple. Il faut lui donner du gras mixé dès 8 heures du matin. Et ça, c'est moins mignon pour les enfants, donc on les mixe à côté. Ou du poussin mixé.
Oui, du poussin mixé, là, sur votre note.
Du rat à 8 heures et le reste de la journée, c'est du poussin. Mais ça dépend des animaux. Là, j'explique plus. Là, c'est plus la première partie, si c'est le directeur qui explique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous allez dans un zoo, vous ne savez pas tout, et donc vous projetez énormément ce qui se passe. Donc, des fois, vous avez des animaux qui sont isolés, vous vous dites qu'il est malade, mais en fait, ils isolent des mâles qui ne doivent plus se reproduire avec des femelles pour des raisons génétiques. Et donc, quand les jeunes sont vers adolescents, dans la nature, ils s'en vont. et pour pas qu'il soit en concurrence avec le mâle dominant, à savoir le père, ni qu'il essaye de se reproduire avec la mère. Donc j'essayais d'imaginer ça chez les humains, ce qui serait sympa, si on pouvait se débarrasser de l'ado de 16 ans. Mais il y a le coordinateur d'espèce, c'est celui qui, aux zoos, doit dire si un enclos est fait ou pas pour une espèce. Ce qui fait qu'il peut y avoir un bébé rhinocéros disponible dans un zoo, mais la ménagerie ne pourra pas le recevoir parce que le directeur d'espèce a mesuré et ce n'est pas assez grand, ce n'est pas adapté. Donc l'ado peut revenir parce que le coordinateur d'espèce a jugé que ce n'était pas adapté. Donc, dans la première partie, ouais, je parle plus de l'organisation et dans...
Vous avez passé combien de temps là-bas en immersion?
Non, quand même pas. Bah, oui, vraiment une journée entière du petit matin au soir. La vétérinaire, j'ai suivi un après-midi, puis j'y suis retournée plusieurs fois par tranche de 2 heures. Je ne sais plus combien de fois. C'était l'été dernier. Cumulé, je ne sais pas. Pas mal. À la fin, ils me connaissaient peut-être.
Vous avez été plutôt bien accueillie. Ça a été compliqué de...
Ce qui a été compliqué, c'est d'expliquer au directeur ce que je voulais faire parce que je n'avais pas la revue. Elle n'existait pas encore. J'avais beau lui montrer mes livres, il ne voyait pas trop ce que je voulais faire. Mais ce qui est bien, c'est que les auteurs de BD, on ne s'en méfie pas trop. En plus, quand c'est des jeunes femmes qui n'ont pas l'air méchantes. Il m'a laissé un peu carte blanche. Le soigneur s'est vachement bien occupé de moi. Il a fait en sorte que toute la journée, je vois des trucs. Marie-Claude Bamsel, ça a été plus dur parce que là, je me suis rendu compte que je n'étais pas journaliste. C'est quelqu'un qui est assez médiatisé et qu'on voit à la télé, dans les émissions, et elle a l'habitude des journalistes. Donc pour elle, il faut que je posais des questions très claires sur telle époque. Et moi, je voulais juste qu'elle me raconte sa vie. Quoi. Mais donc c'était assez... C'est un métier, quoi, d'être journaliste.
Bien sûr.
Évidemment. Mais non, ça s'est bien passé. Et là, il a réalisé, il est super content, le directeur, parce qu'il désespère que, un peu comme le CNES, que les gens... Mais il y a tellement d'informations que je crois que les gens saturent. Donc, si on peut... Lui, il désespère que les gens ne lisent pas les panneaux. Donc, si ça peut aider, peut-être qu'il y a quelque chose à faire.
Vous jouez vraiment un rôle de médiatrice. Vous avez continué ensuite avec une autre discipline, avec la sociologie. Vous avez été en contact avec les Pinsons Charlot. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Donc un couple de sociologues qui a travaillé ensemble pendant des décennies.
C'est un vieux couple qui a décidé de... qu'on étudiait beaucoup les pauvres, mais pas beaucoup les riches, ce qui est rare. Et en fait, c'est un peu les spécialistes des riches. Ça fait 25 ans qu'ils vont étudier les châtelains, qui vont dans le 16e arrondissement, à Neuilly, etc. Donc moi, je les avais entendus pas mal de fois à la radio faire ce qu'ils appellent des promenades sociologiques. Et j'avais lu, ils sont surtout connus pour Le Président des Riches, qui est un livre qui s'est bien vendu et qui a bien embêté le président Sarkozy. Qui était assez intéressant. Et mon éditrice, Pauline, m'a proposé d'essayer de les rencontrer pour éventuellement leur proposer un travail en commun. Je les ai rencontrés l'an dernier. Et le truc, c'est qu'ils avaient beaucoup de travail, donc il s'est vite avéré qu'on ne pourrait pas faire vraiment un livre en commun. En revanche, on leur a proposé de vulgariser, synthétiser leurs travaux, parce que eux, ils n'expliquent pas seulement que être riche, c'est avoir de l'argent, c'est autre chose, c'est aussi avoir du capital symbolique, du capital social, c'est quelle page? Ah oui. Et que ça a une histoire, que c'est pas... S'il y en a de plus en plus, c'est lié à plusieurs facteurs. On voit beaucoup dans les documentaires... ce qui est drôle, c'est qu'en préparant ce livre, quand je regardais la télé, il y avait beaucoup... C'était l'été, les vacances des stars. Et on nous montre des trucs qui font rêver, des yachts, moi, ça me fait pas rêver, mais des maisons avec 5 salles de bain qui coûtent 45 millions. Et en fait, ils montrent que le capital financier, monétaire, ce qu'on a avec de l'argent, alors que c'est beaucoup d'autres choses. Par exemple, je suis allée voir la présidente du Botamondin, qui permet de... C'est un peu l'annuaire de la bourgeoisie. Donc, si vous voulez faire un rallye avec vos enfants pour qu'ils rencontrent des gens de la haute société, vous prenez le Botamondin et vous avez... que des gens bien de votre niveau culturel, social, votre niveau de vie. Et c'est tout ça qu'on montre pas justement dans les émissions. On regarde, on voit que de l'argent en fait. On voit pas comment ça s'entretient, comment ça se transmet, comment ça s'amplifie. J'explique aussi les grandes dynasties, comment ça se fait qu'un cellier a perduré depuis 400 ans, c'est ça? C'est pas pour rien, il y a toute une transmission.
C'est l'acier à la base, c'est ça?
C'est une acierie en Lorraine, c'est ArcelorMittal, ça appartenait à eux. Bon, ça change. Hein?
Avant Mittal, bien sûr.
Oui, c'est mon éditrice. Avant Mittal, oui, ça a beaucoup évolué. Maintenant, ça appartient plus trop à Célière qui fait d'autres affaires. Mais. On oublie aussi les rapports de force, l'entre-soi, ce qui est beaucoup reproché, par exemple, actuellement. Ce qu'ils reprochent à Hollande, par exemple, dans leur dernier livre, c'est que finalement, tous ceux qui nous gouvernent ont fait les mêmes écoles. Ils se retrouvent avec les mêmes journalistes, pas vous.
Par exemple.
On explique tout ça. C'est pour ça que dans ce bouquin-là, j'ai dessiné très peu de voitures, très peu de jets, très peu de piscines, parce que je voulais montrer ce qui est justement à côté de l'argent. Et ce qui m'a bien aidée, c'est de rencontrer des gagnants du loto que je suis allée voir à la Française des Jeux. Parce que les gagnants du loto, quand ils gagnent, la Française des Jeux organise des rencontres entre gagnants. Pour pas être tout seul, et c'est déjà le début de l'entre-soi, c'est-à-dire que une fois qu'on est riche, on voit d'autres riches parce qu'on a des problèmes de riches. Et il y a vraiment des soucis. Est-ce qu'il faut le dire aux enfants? Est-ce que j'en ai rencontré qui ne l'avaient pas dit à leurs enfants, donc ils avaient une super séjour à Paris, ils allaient se faire des soirées sans leurs enfants, mais leurs enfants pensaient qu'ils étaient tous les deux en séminaire de travail, mais en fait ils allaient faire le spectacle d'Annie Boone et compagnie. Et à la Française des Jeux, j'ai assisté à des rencontres où ils se posent des problèmes avec des psychanalystes, des philosophes, la différence entre le bonheur et le plaisir, des trucs comme ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'eux, soudain, ils ont le capital financier, mais ils n'ont pas appris à être riches, tous les autres aspects de la richesse. Et ça, c'est vraiment flagrant quand on les rencontre.
Ça, c'est le cadeau héros, en fait.
J'ai décidé de prendre sous cet angle-là d'un héros qui devient riche tout d'un coup et qui est nul, en fait. Il ne comprend rien. Quand il gagne, il pète un câble, en fait. Il y en a beaucoup qui... Ils ne se mettent pas à dépenser comme des fous. Les Pinsons Charlot ont aussi étudié les gagnants du loto. Ils tombent des nues. Il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était un choc... Un choc, quoi. Ils comprennent pas, ils sont abasourdis. Et après, ça va mieux, mais y en a une, par exemple, je me souviens, elle voulait pas consommer. Son plus grand plaisir, c'était de marcher dans les rayons du Jardiland. Ça l'a reposé. Mais c'est très bizarre. Mais parce qu'à un moment, j'ai rencontré des gens qui travaillaient de près ou de loin auprès des grands riches. J'ai rencontré des bourgeois aussi. Mais je me disais, mais je vais pas, ils sont tous différents. Comment je vais représenter mon héros? Tout le monde ne voyage pas en jet, etc. Puis c'est pas le propos. Mais en creux, le gagnant du loto montre justement tous ces aspects-là qu'il n'a pas, lui. Il n'a pas appris, enfant, à gérer une telle somme. Il n'a pas appris à gérer... à intégrer la richesse, jusqu'à se l'approprier et à la considérer comme naturelle. Il peut même culpabiliser vis-à-vis de ses parents, de sa classe. Et souvent, les gagnants, ils améliorent un peu leur statut de classe. Ils se uploadent un peu, mais ils vont pas faire les fous. Et donc, j'ai pris sous cet angle-là parce que...
Et alors, les Pinsons Charlot sont pas restés à distance, ils vous ont un peu accompagné, ils sont même venus avec vous, place Vendôme.
Ah oui, on a commencé par une visite sociologique pour que je comprenne ce qu'était la violence symbolique. Eh, je l'ai bien compris. C'est quand on... Place Vendôme, quand on ne se sent pas à la hauteur. Moi personnellement, s'il ne m'y avait pas forcé, je ne serais jamais entrée dans une bijouterie Place Vendôme. Et pourtant, ils m'ont montré que j'avais le droit. Mais c'est juste que je ressens... moi, ça marche très bien chez moi. Je me sens nulle, je me sens mal habillée. Bon, pour le coup, j'étais très mal habillée. Mais je ne me sens pas à la hauteur des lieux. Je ne me sens pas... D'ailleurs, Michel Pinson, il disait, c'est facile, les gens qui n'ont pas les moyens, ils rigolent en regardant les prix. Et c'est vrai qu'il y avait des femmes russes très bien apprêtées qui rigolaient pas du tout en voyant qu'une montre coûtait 49 000 euros. Et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ils pouffent un peu. Et c'est parce qu'on est mal à l'aise. Et moi, j'ai été très mal à l'aise. Et ils font ça aussi avec les palaces. Ils emmènent des enfants de ZEP et ils les emmènent dans des palaces. Monique leur fait on traverse tout le palace et on va aux toilettes qui sont au fond du rez-de-chaussée. Enfin. Et les gamins, ils osent pas, ils sont intimidés par les lieux et ensuite ils y vont et ils se rendent compte qu'ils ont le droit d'être là, que les gens sont polis avec eux. Et après, souvent, ils leur demandent de faire des rédactions. Et là, il y a toute la violence qui ressort, où ils se disent, mais pourquoi, comment, nous, on doit aller dans le métro, on doit se coller à des gens qui ne se sentent pas bons, on doit travailler. Il y a des gens, toute la journée, ils sont dans des lieux feutrés, ce n'est pas juste. Pourquoi on s'en prend plein la tête et voilà, ils se la prennent en plein dans la tête. Et surtout, le pire, c'est qu'ils se sentent moches, ridicules, ils se sentent mal. Et c'est ça, la violence symbolique. C'est quand tout vous dit, tu n'as pas le niveau pour être là. Et c'est même une manière de faire le tri parmi les gens. À Vendôme, vous avez le droit d'y aller, mais il y a quand même un tri naturel qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas entrer dans les... Même si vous êtes passionné de mode, peut-être que vous n'oserez pas aller à Avenue Montaigne. Ça peut être intimidant quand même. Il y a un interphone à l'entrée. Donc voilà, on a fait. Mais sinon, on s'est fait des réunions où on a essayé de voir comment articuler tout ça. J'ai rencontré des gens, ils m'ont donné des contacts. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y avait des contacts, je devais dire que je venais de leur part et d'autres, il ne fallait absolument pas que je dise.
Vous n'êtes pas trompée à aucun moment ?
Non, ça va. Mais je me suis dégonflée. Je me suis dégonflée pour l'avocat fiscaliste de Sellières. Je pouvais aller le voir, elle m'a dit que ce serait très drôle, que c'était un monsieur très drôle. Je me suis vraiment dégonflée parce que, un, j'y connais rien en fiscalité, puis deux, c'est quand même l'avocat fiscaliste de Seigneur. Qu'est-ce que j'allais lui demander ? Est-ce qu'il payait ses impôts ? Je sais pas. J'ai rencontré des... Par exemple, j'ai rencontré des clés d'or dans les hôtels qui eux travaillent vraiment au service dans des grands hôtels qui sont là pour se plier à tous vos désirs et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je prenne un autre angle pour cette BD parce que tout le monde est différent en fait. Moi j'attendais des anecdotes farfelues de gens qui veulent des jets. Bon, ça existe mais pas tous, pas tout le monde, c'est de l'anecdote. Donc ces rencontres m'ont permis de me positionner pour tout ça. Puis on a fait des relectures et puis je pouvais les contacter quand je voulais.
Alors vous avez fait des relectures. La première relecture, vous êtes allé les voir. C'était long, ça a occupé une journée.
Alors les Pinson Charlot, ils écrivent ensemble, ils sont mariés et ils relisent tout ensemble. Des fois, ils vont à la campagne, ils prennent leur caddie avec leur pile de leur manuscrit et ils le lisent ensemble à voix haute. Donc il a fallu lire la BD à voix haute et c'est déjà une BD lue à voix haute, ça marche pas bien, lue par des sociologues c'est très spécial,
c'est-à-dire
déjà ils avaient le brouillon donc des fois c'est quand même des patates, c'est très succinct, donc des fois ils voyaient même pas qui parlait. Et je crois qu'ils avaient peur que le brouillon ce soit comme ça, que ça reste dans ce stade-là jusqu'à la fin. Donc avec une petite tournure, ils m'ont demandé si ça allait évoluer quand même. Sinon ils rigolent un peu aussi de leur du décalage avec leur âge, parce que Beyoncé, ils ne voient pas qui c'est. Donc, quand ils le lisent à voix haute, c'est Beyoncé, Skype, ils ne connaissent pas, etc. Mais c'est surtout qu'ils lisent lentement. Très lentement.
Ça a été éprouvant, apparemment.
Ça a été long. Non, c'est dur de... c'est la première fois que je faisais ça et ça rend pas super honneur au gag. Mais c'était bien. Enfin, il fallait le faire.
Avant de laisser la parole au public, moi, je voudrais savoir ce qu'ils en ont pensé de cette bande dessinée. Il y a une préface dans l'album, donc à découvrir le 31 octobre, qui est très élogieuse. Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit ? Est-ce qu'ils ont été heureux de voir ce travail de vulgarisation ?
Ils ont l'air vraiment heureux parce que je pense qu'ils partent du principe que leurs travaux, ils veulent vraiment que ce soit vulgarisé. D'ailleurs, on les voit beaucoup, on les crée. Leurs collègues, ça peut un peu les agacer de les voir beaucoup, mais ils partent du principe que, comme Bourdieu, qu'il faut parler, qu'ils veulent que les gens prennent conscience de ce dont ils parlent. Donc ils sont assez actifs, ils vont à des conférences, ils se bougent pas mal pour des retraités. Et donc je pense qu'ils sont contents parce que des gens qui ne lisent pas de la sociologie, ils ont fait quand même des livres qui sont un peu scientifiques, c'est pas illisible, hein, mais il faut quand même se concentrer. Je pense qu'ils sont contents que peut-être que ça touchera un public qui ne serait peut-être pas allé acheter leurs livres. Maintenant, heureusement qu'ils ont de l'humour, parce que quand même, je les ai dessinés, ils ont de l'humour. Je pense qu'il y a tous les sociologues n'en ont pas. Ils m'ont dit qu'ils me donneraient des noms de gens qui n'ont pas d'humour.
Vous les affublez, par exemple, d'espadrilles magiques achetées à la fête de l'humain. Donc mais ça, c'est véridique.
Non, alors elle n'est pas magique, mais c'est vrai que si vous allez chez eux...
Qui se déplacent très vite avec ces espadrilles.
S'il pleut, on vous donne des petites espadrilles marrons achetées à la fête de l'humain. Donc je leur ai mis des espadrilles magiques. Comme ça, c'est une astuce narrative pour pouvoir faire voyager mes personnages.
Efficace.
Et permettre par ainsi... multitude.
Merci. Avez-vous des questions pour Marion Montaigne ? Non ? Ah, attendez, je vous amène le micro.
Celui-ci, ce sera du... pour l'enregistrement. D'accord. Moi, je me demandais, à partir de quand vous avez commencé les photos un peu bizarres là, sur les cartes postales là. Ça a commencé quand et pourquoi dans le blog ?
Dès le début, non ? Ou vous avez vu qu'il y avait ça a changé à un moment.
Ouais, alors
oui, c'est vrai.
J'ai pas vu toutes les notes, mais.
Alors oui, parce que non, en fait, ça me rappelait quand dans les émissions là, souvent là, il y avait une dame qui tirait une grosse boule avec plein de cartes postales et elle tirait une question donc j'ai repris cette logique, mais après c'est vrai qu'il fallait l'illustrer, alors j'ai pris des photos sur internet, j'essaie de mettre mais c'est vrai que depuis quelques temps j'essaie de trouver des photos plus des anciennes photos, des photos ouais. Un peu plus noir et blanc avec un qui rebondit sur le thème comme la peur en avion, j'avais trouvé un enfant qui était collé à un cockpit d'avion en train de crier, c'est terrible mais bon, j'essaie de non, mais c'est pour faire comme si c'était... Et j'ai des gens qui me fabriquent eux-mêmes leurs cartes postales. Mais des fois, je n'ai pas le temps d'y répondre.
Une autre
question ? Bonsoir Marion. Donc, vous êtes curieuse de tout, de science, de sociologie. Est-ce que vous avez hésité quand vous étiez plus jeune entre une carrière de dessinatrice et ou une carrière plus académique peut-être ? Comment s'est fait votre parcours ?
J'aime bien ce qui est vétérinaire. Si j'avais pu, j'aurais bien essayé, mais je pensais qu'il fallait être vraiment très très fort pour faire S. Donc j'ai fait ES et j'ai fait du dessin. Non, je pensais qu'il fallait être excellent, pas seulement bon. Donc je ne sais pas ce que j'aurais donné. Je crois que j'aurais souffert. Mais c'est l'orientation qui est difficile. À une époque, j'aurais pris bac B. C'est ça, bac bio. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, mais c'est un meilleur compromis parce que comme ça, j'ai les côtés fun de la science sans les côtés pénibles. Vous êtes scientifique, non ?
Oui, je suis ingénieur. Moi, j'ai choisi la voie académique. Je ne sais pas dessiner, donc...
Je ne sais pas faire de formules mathématiques. Non, mais c'est un bon compromis. Moi, je m'amuse beaucoup en faisant ça. Donc, merci les chercheurs pour de faire tout le boulot à ma place.
Que vous avez comme autre projet, Marion, dans votre besace?
Bah, il va peut-être falloir que je fasse un tome 3.
Et tu mourras moins bête.
Voilà, puis après, je sais pas, peut-être un truc sur l'espace, on verra.
Un truc sur l'espace?
Oh non, je peux pas en dire plus.
Je sais pas. Non, j'ai pas le droit. Bon, un truc sur l'espace. Bien,
l'espace
on en restera là. Merci Marion Montaigne, merci à vous pour votre présence et bonne soirée.